Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Nous avons lu le chapitre 6 de l'évangile de Jean et j'aimerais revenir sur un verset ce matin. C'est le verset 27. Nous avons vu Jésus qui a multiplié les pains et les poissons, qui a nourri miraculeusement une foule, et voilà donc que toute une foule se met à sa recherche, parcourt des kilomètres pour le retrouver. Il est passé de l'autre côté du lac, et on le cherche, et on va de l'autre côté du lac pour suivre Jésus. Et on se dit, c'est formidable que toute cette foule fasse tant d'efforts pour suivre Jésus. Et Jésus, au verset 26, leur dit, ben, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alors, ce matin, le verset que j'aimerais présenter au cœur de chacun, c'est cet ordre de Jésus, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Pourquoi vivons-nous? Dans quelle perspective est-ce que nous vivons notre vie terrestre? Dans notre vie terrestre, nous mettons de l'énergie à beaucoup de choses. Des efforts, du labeur, du travail. Et Jésus constate l'effort de ces gens qui l'ont suivi, qui l'ont cherché, qui ont parcouru des kilomètres. Et nous sommes capables de retourner ciel et terre, comme on dit, hein. Mais dans quel objectif? Pourquoi est-ce qu'on fait tant d'efforts? Pourquoi est-ce qu'on investit de l'énergie? Est-ce que c'est pour des choses qui périssent, pour une nourriture qui périt, pour combler des besoins, mais des besoins éphémères? Ou bien est-ce qu'on investit de l'énergie pour des choses qui subsistent dans la vie éternelle? À cet égard, nous pouvons compléter ce que Jésus a dit par une parole dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4. Deux Corinthiens 4, verset. La fin du verset 18, nous reviendrons sur le verset 17 et 16 plus tard, 16, 17, 18 plus tard, mais la fin du verset 18 dit: nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous avons devant nous ce qui est passager. Jésus dit la nourriture qui ne subsiste pas, qui périt, qui est passager. Et puis, les choses qui sont invisibles, celles qui sont éternelles. Et Jésus dit, cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, on se dit, ok, j'ai une vie à vivre, mais dans cette vie à vivre, comment est-ce que je dois la vivre ? Et le Seigneur nous dit, eh bien, il s'agit d'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Les pieds sur terre, oui, parce que Jésus, dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, quand il prie pour les disciples et pour ceux qui croiront plus tard en lui, dit « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Il dit, il ne s'agit pas de devenir une sorte d'ermite et de s'abstraire de la vie terrestre et du monde, non. Le chrétien traverse cette vie en ayant bien les deux pieds sur terre. Et avoir les deux pieds sur terre, c'est une expression qui veut dire être réaliste des choses qui nous environnent et mener donc une vie, une existence qui prend avec sagesse en compte eh bien, le contexte dans lequel nous vivons. Donc les jeunes, par exemple, si vous vous dites « Le Seigneur a dit de travailler pour des choses qui subsistent dans la vie éternelle, je vais arrêter mes études, c'est plus la peine que je travaille en classe », eh bien, le Seigneur nous interpelle d'abord en disant « Attention, hein, je n'ai pas prié pour t'ôter du monde. Dans la vie, il va falloir quand même que tu travailles, que tu aies bien les deux pieds sur terre, que tu aies un métier et que tu gagnes ton pain. » D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à ceux qui voulaient vivre un peu trop les deux pieds déjà dans les nuages que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Alors non, on vit les deux pieds sur terre. Mais la tête dans le ciel, la tête sont nos pensées. La tête, c'est ce qui dirige, c'est le chef. D'ailleurs, en grec, le mot tête ou le mot chef, c'est le même mot. C'est pour ça qu'en français, on dit, en parlant d'un chapeau, un couvre-chef. La tête, c'est ce qui va orienter notre vie, nos actions, et bien sûr, ce qu'on va faire de nos pieds, d'ailleurs. Et dit votre tête, vos pensées, voilà ce qu'il y a, ce qui se passe dans votre tête, dans votre orientation, dans votre direction. Il faut que ce soit dirigé, orienté vers les choses qui subsistent pour la vie éternelle. Les yeux, non pas fixés sur les choses visibles qui sont passagères, mais sur les choses invisibles qui sont éternelles. Nous pouvons lire Colossiens 3, verset 1. Qui nous invite à cette tête dans le ciel. Les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. D'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça, avoir la tête dans le ciel, c'est les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, nous avons cette orientation vraiment. Cherchez, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous avez remarqué que le cœur est entre les pieds et la tête. Mener une vie les deux pieds sur terre, c'est-à-dire, on ne commence pas à partir dans des délires mystiques, farfelus, et non, le Seigneur nous a donné une vie terrestre à vivre, et on va la vivre avec sagesse, avec implication dans la société dans laquelle on vit. Mais avec les yeux fixés sur Jésus, avec la tête qui s'attache aux choses d'en haut, et le cœur. Et vous avez remarqué que le cœur est entre les deux. C'est-à-dire que notre cœur, nos affections, le Seigneur nous demande d'avoir justement un équilibre entre les deux pieds sur terre et puis la tête là-haut dans le ciel. Mais vous avez remarqué que le cœur est légèrement plus proche de la tête que des pieds. Le problème, c'est quand notre cœur, il est au niveau de nos pieds. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est les choses terrestres, c'est les choses visibles, c'est tu travailles pour des choses qui périssent, tu as le cœur bien bas. Tu as le cœur dans les pantoufles, là. Et non, je l'ai placé un peu plus haut, vers la tête. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à nous poser la question, de quelle manière est-ce que je mène ma vie ? Est-ce que, dans mon quotidien, là où j'investis de l'énergie, là où je travaille, est-ce que finalement, si je fais le bilan, l'énergie, le temps que je passe, mes motivations les plus profondes, ce qui me propulse, est-ce qu'en fait la finalité de pourquoi je mets tant d'énergie, est-ce que ce sont des choses passagères, terre à terre, exclusivement terre à terre? Ou est-ce que je lève les yeux plus haut, je cherche les choses d'en haut, je m'attache aux choses d'en haut, je détache mes yeux des choses visibles, passagères, et je me dis, mais là où je dois investir mon énergie, c'est pour des choses qui demeurent dans l'éternité. Et le Seigneur, il est, je dirais presque intransigeant, il dit travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a un mot d'ordre pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que dans notre existence, nous puissions mettre une énergie, un effort pour que nos journées comptent, et pour que nos journées comptent pour la vie éternelle. Est-ce que demain, le lundi que je vais vivre est un lundi qui va compter pour la vie éternelle ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans mon lundi dont l'empreinte va être gravée dans le ciel ? C'est ce que Jésus nous demande. Alors, ça nous demande de vraiment vivre notre vie terrestre, non pas en regardant nos pieds, hein, je marche dans ma vie en regardant mes pieds. Terre à terre. Mais en levant les yeux. Je marche dans ma vie en disant, c'est pas juste ma semaine, c'est pas juste ma vie là. Il y a quelque chose qui s'appelle l'éternité, et dont je peux marquer des empreintes aujourd'hui sur cette terre. Je peux laisser quelque chose pour l'éternité. Je peux travailler pour l'éternité, avoir cette nourriture qui subsiste. Alors, quelle est-elle ? J'aimerais vous proposer sept aspects, sept, de choses, et ce n'est pas limitatif, hein, mais par lesquelles vraiment nous pouvons nous attacher aux choses d'en haut. En nous disant, mais je vais travailler, je vais mettre de l'énergie à ces sept choses, parce que ces sept choses ont des répercussions pour l'éternité. Ces sept choses, elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas passagères, elles ne sont pas là juste pour durer un petit peu de temps. Mais non, il y a, comme dit le texte que nous n'avons pas encore lu, mais nous avons lu la seconde partie, elle porte un poids éternel de gloire. Vous savez, je vous illustre juste quelque chose, mais ce sont les téléphones portables. Regardez l'engouement qu'il y a pour toute la gamme des iPhones. Au point que, je ne sais plus lequel est sorti, c'est le 10 peut-être ? X. Et il paraît qu'on peut faire des réservations, etc. Et que les gens réservent des mois à l'avance et que tout est réservé sur un truc qui coûte plus de 1000 euros. On y met de l'argent, on y met de l'énergie, on s'investit, on veut ce iPhone, le prochain qui va sortir. Et puis ça dure depuis quelques années. Alors, vous prenez les vieux iPhones, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui ? C'est une bonne question. Le iPhone 3, ça existe ? Je suppose. Plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est rétro. C'est dépassé. Comme le sera le X. Hein, pour lequel il y a tout un engouement là, il paraît que les gens font la queue et tout. Enfin. Bon, pour des choses passagères. Et là, pour être passager, c'est passager. Hein. C'est une question de 1 ou 2 ans, et puis après c'est dégagé. Hein. Ça serait dommage que notre vie, quelque part, ressemble d'une certaine manière à cet engouement tellement éphémère et tellement passager pour des choses qui finalement sont passagères, rapides, périssent. Et on passe à côté d'une vraie empreinte qui dure jusque dans l'éternité. Alors en tant que chrétien, on ne doit pas s'y tromper. Notre vie terrestre, nous devons graver des choses dans l'éternité. Amen. Alors, cette chose. Première de ces choses, c'est la sanctification. Le Seigneur nous dit, soyez saints, car je suis saint. Et il nous dit que notre travail à la sanctification va avoir des répercussions dans la vie éternelle. Le Seigneur parle du tribunal de Christ, parle des récompenses, parle de la louange que chacun recevra en fonction de la vie de sanctification qu'il a vécue. Et Hébreux 12, verset 4, nous dit une chose solennelle. Peut-être pour ceux qui, je dirais, moi, la sanctification, je vais la mettre de côté, complètement. Hein ? Eh bien, Hébreux 12, verset 4 dit, non, c'est pas le bon texte. Le texte dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si quelqu'un le trouve, vous pouvez donner la référence pour qu'on puisse le lire ensemble. Ah voilà, ben c'est 14, j'ai oublié un 1. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est solennel, hein. Seigneur nous dit, attention, tu veux me voir dans l'éternité ? Mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors bien sûr, cela parle déjà de la conversion, le fait que Christ devient notre sanctification. Il a été fait pour nous justice et sanctification. Il me revêt de sa justice, il me rend saint, il me met à part pour lui. Mais, dans une certaine mesure, le chrétien qui ne se préoccupe guère de sanctification n'est pas en train de travailler pour une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il y aura des répercussions. Regardez le Matthieu 25. Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23. Alors, je n'ai pas précisé. Lorsqu'on parle de sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vigilance sur nous-mêmes pour repousser le péché de notre vie. Identifier les domaines de notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont des péchés, qui ne sont pas selon sa volonté, qui sont défaillants. Et plutôt que de les laisser de manière un peu complaisante en place dans notre vie, dire non. Non, le Seigneur ne les veut pas, il m'a dit « Soyez saints car je suis saint ». J'identifie des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il va falloir que j'y travaille. Il va falloir que ça change. Je vais les confesser au Seigneur. Et je vais mettre en œuvre la puissance de Christ dans ma vie pour ne plus marcher avec ce comportement, ces réactions, ces pensées, ces valeurs. La sanctification, c'est enlever le péché de notre vie. Et il y a un vrai travail qui porte des fruits dans l'éternité. Matthieu 25, verset 23, c'est une parabole. Et simplement, pour que nous voyons combien il y a des répercussions dans l'éternité, ici c'est plutôt sur le service que sur la sanctification, mais en général, l'un accompagne l'autre. Il dit, le maître dit au serviteur, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et il dit, je te confierai beaucoup. Alors, quand le Seigneur me dit « travailler pour la nourriture qui subsiste pour l'éternité », une première chose, c'est vraiment la sanctification. Ôter de plus en plus le péché, mes mauvaises réactions, les choses qui ne plaisent pas au Seigneur de ma vie. La deuxième chose, c'est la prière. Là aussi, je peux mettre de l'énergie. Le Seigneur me demande de travailler, donc c'est vraiment une énergie. Et la prière, l'intercession, prier pour les autres, c'est quelque chose qui a des répercussions pour la vie éternelle. Prendrons deux passages, Colossiens 4, 12. En fait, c'est Colossiens 4, les deux passages sont dans Colossiens. Et nous voyons deux sollicitations pour nous, à prier. Colossiens, chapitre 4. D'abord, au verset 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et le verset 3 dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Le faire connaître comme je dois en parler. » Voilà, l'apôtre Paul est en train de demander la prière des Colossiens en disant « Priez, soyez mes partenaires de prière pour que je puisse évangéliser, pour que le Seigneur ouvre des portes. » Et est-ce que nous verrons ces fruits au ciel? Est-ce que ça sera une empreinte gravée dans la vie éternelle? Oui, parce que ce sont des âmes qui seront sauvées. parce que nous aurons participé en priant. Est-ce que nous pouvons prier les uns pour les autres? Oui. Et nous verrons au ciel comment le Seigneur a répondu. Comment le Seigneur nous dira, tu te souviens que tu as prié pour tel frère, pour telle sœur, pour telle personne? Eh bien, ça a fait la différence. Et regarde maintenant, je vais te raconter la différence que ça a fait dans sa vie. Et au ciel, on va se raconter comme ça plein d'histoires. Où on va voir comment, lorsque nous avons travaillé à des choses pour la vie éternelle, effectivement, elles ont produit une nourriture pour l'éternité. Un petit peu plus loin, au verset 12, Paul mentionne un frère fidèle qui s'appelle Épaphras. Et il dit à son propos, Épaphras qui est des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Formidable. L'exemple de quelqu'un qui combat pour les autres dans la prière, afin qu'ils tiennent bon. Afin qu'ils tiennent bon dans la foi. Afin qu'ils tiennent bon pour Jésus-Christ. Eh bien ça, quand on peut prier pour quelqu'un pour qu'il tienne bon pour Jésus-Christ, oui, ça, c'est des choses qui nous suivent jusque dans la vie éternelle. On travaille pour une nourriture qui subsiste, plutôt que pour ce qui est passager. Il y a bien sûr, vous l'aurez compris, l'évangélisation, c'est la troisième chose. On a dit la sanctification personnelle, la prière, mais aussi l'évangélisation. Quand je vais parler de Jésus à quelqu'un, eh bien, cette personne, quand elle se tourne vers Jésus-Christ, le travail que j'ai fait, comme disait Paul, il dit, il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, il y en a qui récoltent, mais on travaille ensemble. Et le travail qui est fait, il nous suit dans la vie éternelle. Nous rencontrerons au ciel ceux à qui nous avons témoigné. Peut-être nous ne savons même pas qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ plus tard. Mais le Seigneur nous dira, tu vois, ça c'est une partie du fruit. Voilà cette nourriture pour la vie éternelle dans laquelle tu t'es investi. Eh bien voilà, elle est là. Nous pouvons lire à cet égard 2 Corinthiens 5:20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Une exhortation à être des témoins, des ambassadeurs, et presque à supplier les gens, dire soyez réconciliés avec Dieu. Et nous voyons le fruit. Regardez Philémon. Philémon, nous en avons parlé au mois de septembre. Nous nous souvenons de son esclave qui avait fugué et qui était parti en volant une somme d'argent importante. Et que se passe-t-il? Eh bien, de toute cette histoire, eh bien, cet esclave, qui s'appelait Onésime, va finalement rencontrer Jésus-Christ. Et regardez ce que Paul dit à Philémon, chapitre 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, et au verset 15. Il dit peut-être, Philémon 1,15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Voilà. Il lui dit, Il a été séparé de toi pour un temps, il s'est passé tout ça, mais ce n'est pas en vain, c'est pour que tu le retrouves pour l'éternité. Et Philémon pourrait très très mal réagir, il a les deux pieds sur terre, ce qui compte c'est son pognon, c'est que tout ça, justice soit faite, on va régler les comptes. Et Paul lui dit, moi je te prie au nom de l'amour de le recevoir, comme tu me recevrais moi-même et de lui pardonner. Il dit, dans cette situation de vie, dans un contexte social, avec un maître, un serviteur, un vol, une fugue, il dit, ok, tu as les deux pieds sur terre, mais tu as la tête dans le ciel. Et tu vas vivre dans la perspective de l'éternité, et ton attitude vis-à-vis d'Onésime, elle doit être fixée pour porter du fruit pour l'éternité. L'évangélisation. La quatrième chose, c'est le service dans l'Église. On l'a vu déjà un peu au travers Matthieu 25, hein, le serviteur, Dieu confie des talents. Il fait des dons. En 1 Pierre 4, 10, il nous est dit, 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà, j'ai des gens autour de moi, et le Seigneur me confie des dons, des talents, des capacités. Il me dit, plutôt que de les utiliser exclusivement pour toi-même, comme un bon gestionnaire de ce que Dieu te donne, eh bien, utilise-le pour les autres. Et là, quand tu l'utilises pour les autres, tu graves des choses pour l'éternité. C'est une nourriture qui va te suivre pour l'éternité. C'est une empreinte que tu vas mettre de ma part dans la vie des gens, dans leur âme. Et cette empreinte, elle sera dans le ciel. Alors, est-ce que nous cherchons à servir dans l'Église? Est-ce que nous cherchons à avoir un ministère pour le Seigneur? Et il nous y invite, il a dit, chacun reçoit un don à mettre en œuvre pour les autres, au service de l'Église. Est-ce que nous travaillons pour les choses éternelles? Et nous pouvons évaluer notre investissement pour notre vie, finalement, très terre à terre, les deux pieds sur terre, ma maison, mon travail, mon argent, mon compte en banque, mes vacances, mes loisirs, hein, mes cadeaux de Noël. Et puis, dire oui, mais... Et les autres? Comment est-ce que j'imprime dans la vie de ceux qui m'entourent et que j'imprime de la part du Seigneur? Cinquième chose par laquelle nous pouvons vivre dans la perspective de l'éternité, eh bien, c'est la dîme. C'est notre argent, parce que notre argent fait le lien entre nos deux pieds sur terre et notre tête dans le ciel. Et Jésus nous dit d'ailleurs, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors ton cœur, il peut être un peu près de tes pieds ou plus près de ta tête. Ça passe par nos biens matériels. En 2 Corinthiens, au chapitre 9, il est question de cette libéralité par l'argent, de cette générosité. Et au verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Nous voyons ici dans ce texte que l'argent qui est donné à ceux qui en avaient besoin, eh bien il produit des actions de grâce, il produit une louange, il produit des choses dans les âmes. Vous êtes d'accord avec ça? Ça produit des choses dans les âmes. Et il y a une empreinte pour l'éternité. Ce n'est pas seulement une question d'argent, très terre à terre, mais cet argent-là, mis au service de Dieu, il produit des choses spirituelles. Alors, le Seigneur nous invite aussi à vivre, bien sûr, les deux pieds sur terre. Comme il dit ailleurs, il ne s'agit pas de vous dépouiller, de vous mettre dans la difficulté pour soulager d'autres. Les deux pieds sur terre, il dit attention. Vivez aussi à l'égard de l'argent, dans la perspective de ce que cet argent peut produire comme empreinte pour la vie éternelle. Une sixième chose concernant le fait de vivre notre vie dans la perspective de l'éternité, c'est la connaissance de Christ. Là aussi, nous devons travailler. De Pierre 3, verset 18, nous dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes appelés à croître, c'est-à-dire à grandir. Il dit « Grandissez dans cette connaissance que vous avez de lui. » Est-ce que c'est une empreinte pour l'éternité? Oui. Quand je vais rencontrer Jésus face à face, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire « Ah, ben on se voit enfin face à face, on se connaissait pas bien, hein, on se connaissait pas trop, hein ?» Ah oui? Bon, tu es là, c'est bien, hein, mais tu n'as pas vraiment pris le temps de me connaître. Hein, t'avais le cœur près des pieds. Hein, pas trop la tête dans le ciel. Hein. Bon, bah, écoute, on va faire connaissance maintenant. En 1 Jean 2, verset 28, nous voyons le contraire. Hein. 1 Jean 2, verset 28. Il dit maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Voilà, dans l'éternité, lorsque nous rencontrerons Jésus-Christ face à face, finalement, est-ce que nous allons enfin voir quelqu'un face à face, mais que nous connaissons déjà bien, que nous avons appris à connaître, pour qui nous avons passé de l'énergie à grandir dans sa connaissance, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que jour après jour, j'ai appris à connaître mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus, et je le connais de plus près, parce que je m'y implique, parce que je m'y investis, parce que je cherche sa présence? Ou est-ce que je vais arriver au ciel, bon, je ne connais pas tellement ce Jésus, en fait. Nous sommes vraiment invités à connaître Jésus. Et ça fera une différence au ciel. C'est une empreinte qui nous suivra pour l'éternité. La dernière chose
dans laquelle nous sommes invités à vivre dans la perspective de l'éternité, c'est le sujet des épreuves. Nous terminerons par là et nous reprenons 2 Corinthiens 4. Nous traversons dans cette vie des difficultés, des épreuves, des peines, des souffrances. Et du coup, c'est des moments où justement, on a vraiment les yeux fixés sur nos pieds. Terre à terre, parce que quand on a mal et c'est très terre à terre. Quand on est triste, quand on est choqué, quand on est découragé. Et le Seigneur nous invite à vivre ces difficultés dans la perspective de l'éternité. Il dit au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, peut-être par la maladie, hein, par la vieillesse, par les blessures, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, ce qu'on traverse de difficile, nos légères afflictions du moment présent, cette vie terrestre, si nous les vivons dans la perspective de l'éternité, elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous pouvons vivre nos difficultés, nos épreuves, soit en gardant les yeux fixés sur nos pieds, les choses visibles, soit en levant les yeux, en voyant la dimension spirituelle. L'apôtre Jacques, par exemple, y invite, hein, voir une dimension spirituelle de l'épreuve en disant « Considérez mes frères comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez être exposées, sachant que l'épreuve produit la patience, etc. » Voilà, des perspectives. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous invite à marcher dans nos épreuves, au travers de nos épreuves, en nous souvenant que nous pouvons les traverser en Jésus-Christ et que ça produira pour nous un poids éternel de gloire. Il y a une empreinte qui est gravée dans le ciel et pour l'éternité lorsque nous traversons les épreuves, la main dans la main avec Jésus-Christ, victorieusement. Alors, faisons le point. Comment est-ce que je vis ma vie? Nous relisons, nous revenons aux paroles de Jésus. C'est notre conclusion. Jean 6. Nous allons repartir dans nos occupations, dans nos préoccupations, dans notre travail, dans notre retraite, dans nos études, dans nos projets. Et on a tous des... Voilà, on a tous une vie concrète, les deux pieds sur terre. Très bien. Très bien. Mais en ayant les deux pieds sur terre, il s'agit d'avoir la tête dans le ciel. Alors relisons ce mot d'ordre de Jésus, Jean 6, 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Que vraiment nous puissions aborder notre vie en nous disant, Seigneur, je veux vivre mes journées en inscrivant dans le ciel une empreinte pour l'éternité. D'abord par la sanctification, Le péché, pas question. Voilà. J'y travaille, je combats, j'y mets de l'énergie. La prière, une vie de prière. Je combats dans la prière, j'intercède. Et ça impacte et ça œuvre. Et il y a des choses qui se produisent dans le ciel par la prière. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Des empreintes. L'évangélisation, le témoignage personnel, parler de Jésus, plutôt que de me taire. Parce qu'il y a des âmes qui vont être libérées, qui vont rencontrer Jésus, qui vont être sauvées, que le Seigneur va faire passer des ténèbres à la lumière parce que j'ai ouvert la bouche. Et je les retrouverai, comme Philémon retrouvera Onésime pour l'éternité, comme un frère bien-aimé. Le service dans l'Église. Comment je peux mettre mes capacités, mes dons, mon temps, ce que je sais faire, au service des autres, pour le Seigneur. La dîme, l'argent, là aussi, dans la perspective de l'éternité. Je calcule pas juste oh, cet argent que je perds, j'aurais pu en faire ceci, j'aurais pu en faire cela. Dommage, tel voyage, ça me passe sous le nez. Oh, c'est sûr que si on commence à compter sa dîme et à multiplier par 12 mois, parce qu'il y a 12 mois, ça vous fait de ces sommes, vous dites, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Mais ça, c'est quand on a les yeux fixés sur les choses visibles. Jure que quand on a les yeux fixés que sur les choses visibles, on se dit, oh, c'est frustrant. Hein. Le Seigneur nous dit, lève les yeux parce que tu sais quoi, ça et ça te marque une empreinte pour la vie éternelle. Vraiment. C'est un bon investissement. La connaissance de Christ. C'est cette communion de tous les jours avec Jésus, ce face-à-face avec Jésus, le connaître en tête-à-tête. Est-ce que je vais arriver au ciel ? Jésus va me dire, on ne se connaît pas trop, hein, bonhomme. Ou est-ce que le Seigneur va m'accueillir les bras ouverts en disant, ça fait longtemps qu'on se connaît bien, hein ? Eh bien maintenant on se voit face à face. Et enfin, les épreuves. Que nous puissions aussi, dans ce domaine de vie, des choses difficiles à vivre, les vivre dans la perspective de l'éternité en comptant sur la promesse que le Seigneur nous dit, ça produit pour vous et c'est une garantie. Le Seigneur nous dit, je vous garantis que si vous traversez ça avec moi, ça produit pour vous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Quel encouragement. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas vivre notre vie juste les pieds sur terre et la tête qui regarde nos pieds sur terre. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, te demander que tu nous aides à rechercher les choses d'en haut. Que tu nous apprennes, chaque journée qui passe, à réfléchir quelle empreinte notre journée laisse pour l'éternité. Et que de plus en plus, notre cœur désire que nos journées, que nos semaines puissent marquer des empreintes pour l'éternité. Et le rechercher. En se disant, j'ai vécu une semaine qui compte, et qui compte vraiment pas pour des choses passagères, mais qui compte parce que là, j'ai marqué des points pour l'éternité. Seigneur, encourage-nous à vivre notre vie de cette manière parce que c'est la seule manière par laquelle notre existence possède une pleine et entière valeur parce que c'est une valeur éternelle. Au nom de Jésus. Amen.